Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est la grande table d'été. Nous poursuivons un cinéma enflammé, un cinéma pour les rêveurs transpirants, les monstres qui pleurent et les enfants qui brûlent. Un cinéma qui jouit et se consume sans compter. Et nous invitons tous les cœurs enflammés à venir souffler sur les braises. Ces mots actent notre volonté commune de faire des films, de les rêver, de les penser, de les désirer, de les révéler. Ce n'est pas un dogme, juste une flamme dans la nuit, notre état du moment. On raconte que certaines nuits froides d'hiver, nos films se réunissent dans la forêt. Ensemble, ils allument un feu et dansent jusqu'à l'aube pour faire brûler nos cœurs. Manifeste cinématographique et onirique en première partie de la grande table avec les réalisateurs Caroline Poggi, Jonathan Vinel, Yann Gonzalez et Bertrand Mondico qui signent trois courts-métrages sous le titre commun « Ultra Rêve ». Et en seconde partie, portrait d'un jeune pianiste de jazz, Gauthier Toux. Bonjour Caroline Poggi et Jonathan Vinel.
Bonjour.
Bonjour.
Votre court-métrage s'appelle After School Fight. After School Night, Night Fight, Fight, pardon. Yann Gonzalez, votre court-métrage vous s'appelle Les Îles.
Bonjour.
Bonjour. Et Bertrand Mondico, bonjour.
Bonjour.
Le vôtre s'appelle Ultra Pulp et ils sont tous les trois réunis, ils sortent sur les écrans. Aujourd'hui, il s'appelle, sous le titre, pardon, Ultra Rêve. Un manifeste accompagne la sortie de vos courts-métrages, j'en lisais un extrait en introduction dans les cahiers du cinéma sous le titre Flamme.
C'était les vacances de la Toussaint, et les garçons étaient venus voir un film chez moi. Je sais plus ce que c'était, mais je me rappelle qu'on avait beaucoup ri. Après avoir vu ce film, on a voulu faire un tour dehors. Devant chez moi, il y avait plusieurs voitures de police avec les gyrophares allumés. Au sol, il y avait un corps allongé sous une couverture. Un des policiers nous a dit que deux jeunes s'étaient bagarrés avec des couteaux. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé le nom du groupe. Knife Fight. J'ai choisi ce nom en hommage au jeune homme mort devant chez moi. Quand j'en ai parlé aux garçons, ils ont tout de suite accepté. Ils trouvaient ça thug.
On écoute un premier extrait de After School Knife Fight, votre film Caroline Poggi et Jonathan Vinel. D'où vous est venue cette idée de rassembler comme ça trois courts-métrages autour du titre Ultra Rêve et de l'accompagner d'un manifeste dans les cahiers du cinéma?
Je crois que c'est une idée de notre producteur commun, Emmanuel Chaumet. Et puis voilà, je crois qu'il y a aussi une évidence sur ce qui nous rassemble. Moi, j'ai pas vu le programme en entier, mais évidemment, j'ai vu les deux autres films que j'adore. Et je crois que c'est des films qui vont bien ensemble. Il y a des passerelles, il y a des sortilèges communs.
Est-ce qu'il y avait l'idée de répondre à... Est-ce que ça répondait à une forme d'urgence? Vous avez dit à un moment, bon voilà, il faut écrire un manifeste, il faut faire des films qui manifestent quelque chose.
Bah, c'était plus pour acter un état d'esprit qui nous réunit. Hein. On avait évoqué avec Yann l'idée de programme commun. Quand je dis ça, programme commun, ça fait un peu programme politique.
Programme commun de la gauche.
C'est un peu triste comme appellation. Enfin, on avait évoqué cette idée-là. Et puis après, quand les films ont apparu les uns après les autres, ben on s'est dit que voilà, on allait les réunir et pour acter cet état dans lequel nous sommes quand nous faisons des films, cet état d'esprit commun, on a décidé de d'écrire ce texte. Le mot manifeste est un peu un gros mot, quoi, un peu impressionnant. On avait vraiment envie de faire quelque chose de plus léger. C'est vrai que dans l'appellation flamme, il y a quelque chose de léger, d'incandescent, qui brûle et qui est éphémère aussi.
Vous le dites dans le texte, oui, c'est pas un dogme. Mmh. C'est l'idée de rassembler des films autour d'un désir commun de faire du cinéma. Ce serait ça plutôt?
Oui, c'est plutôt une flamme dans la nuit qu'on agite comme ça et puis en disant qui même me suive.
Et c'était, ouais. Je pense que c'est aussi une façon de faire un pacte à trois et de dire qu'on est amis et qu'on aime le cinéma de chacun. Et du coup, d'avancer ensemble comme ça, on trouvait que c'était une belle idée. On est un peu souvent, on peut être parfois seul quand on fait des films, et du coup c'est bien aussi de pouvoir mettre trois ou quatre réalisateurs ensemble et d'arriver à avancer un bout de chemin ensemble.
Souvent, on est assez seul et au final, c'est l'idée, oui, plus d'être une bande, en fait, aussi, et d'avancer ensemble comme un... Enfin, j'ai l'impression, comme dans nos films où il y a plusieurs personnages, etc., c'est de vraiment d'être une bande et de créer ensemble, de faire des choses ensemble et du coup, d'être, on va dire, presque une plus grande force, en fait.
Un bataillon d'amour et de rêve.
Voilà, une harde sauvage.
Dans une première partie de ce texte Flamme, vous dites que vous êtes poursuivi par un cinéma qui traverse. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui aujourd'hui dans le cinéma actuel et français, pour se limiter aux français, vous semble ne plus traverser?
Je pense que dans l'idée de traverser, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas forcément quand on le voit, mais qui s'imprègne profondément en nous. Et qui continue à s'infuser. Voilà, ça c'est l'idée que j'aime du cinéma. C'est quelque chose qui vient se visser dans le cerveau comme ça et qui reste un long moment. Et on va convoquer des souvenirs de films qu'on a vus. Et souvent, je trouve que beaucoup de films sont efficaces dans le moment où on les voit et après on les oublie. Et voilà, moi j'aime les films qui se visent dans la tête.
Ce qui est important avec le mot traverser aussi, c'est l'idée de mouvement, je trouve. En fait, c'est que quand on parle du regard qui traverse, c'est le regard qui fait un mouvement, c'est-à-dire qui avance dans le film et qui, on va dire, prend partie dans le film. C'est-à-dire que quand moi, ce que j'aime quand je regarde un film, c'est quand mon corps entier, pas que ma tête, mais mon ventre aussi, fait ce mouvement vers l'écran, en fait. Et je crois que c'est vraiment ça qui est important dans la traversée, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que en regardant un film de Bertrand ou de Yann, je dois faire un pacte avec eux, une sorte de...
Ça engage plus.
Ça m'engage, voilà, à traverser l'écran, à traverser le monde, leur histoire, à tenir la main à leur personnage. Et je crois que ce mot traverser est important dans le sens où ça engage vraiment le spectateur, en fait.
Voilà. Et c'est intéressant parce que dans votre court-métrage After School Knife Fight, dont on l'entendait dans l'extrait, c'est l'histoire d'un groupe musical qui va se séparer et leur idée commune part d'un désir aussi, puisqu'ils ont vu un film ensemble, c'est ce qu'on entendait dans l'extrait. C'était aussi quelque chose que vous aviez à cœur de représenter ça, des personnages qui sont aussi des spectateurs de cinéma.
Ça, pour le coup, pas du tout, parce qu'en fait, on l'a vraiment... C'est le seul truc qui n'était pas écrit au scénario et c'est vraiment un truc qui est tombé comme ça. Je pense que c'était plus l'idée... de quand on regardait un film, je pense que c'est ce qu'on faisait à cette époque-là. Moi, j'avais un groupe de musique, en fait, quand j'ai connu exactement la même situation que les gens du film. J'avais un groupe de métal et je faisais la basse. Et je crois qu'on avait trouvé les noms du groupe quand on se réunissait comme ça et qu'on faisait autre chose. On allait regarder MTV le soir sur la télé ou pendant le goûter. Je pense que c'était comme ça que ça se faisait. Donc, voilà.
Et sur la spécificité de la forme court-métrage, donc vous, Caroline Poggi et Jonathan Vinel, c'est la forme que vous avez principalement utilisée au cinéma, vous avez un long-métrage en préparation, mais qu'est-ce qu'elle permet, cette forme du court-métrage? J'ai eu l'impression aussi que c'était trois films qui avaient la particularité d'être extrêmement denses, ou en tout cas qui disaient beaucoup de choses en peu de mots. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez vécu et construit?
J'ai l'impression que tous les quatre, on n'est pas vraiment dans un cinéma de l'économie. Je crois qu'à chaque film, on a envie de tout mettre, de mettre toutes nos pulsions, tous nos désirs, tous nos rêves. Donc voilà, c'est du cinéma plein. C'est faire chaque film, qu'il soit court ou long, comme si c'était le premier. Pour moi, ça, c'est super important.
Et le dernier.
Ouais, aussi. Non, mais c'est vrai, pour moi, il n'y a pas forcément de différence entre un court et un long, si ce n'est le parcours d'endurance du long qui, effectivement, est beaucoup plus épuisant. Mais je crois qu'on met les mêmes affects dans un film, qu'il soit court ou long.
Bertrand Mandicot, vous êtes d'accord?
Totalement. Et puis, les enjeux ne sont pas les mêmes, puisqu'on financièrement, c'est forcément pas la même chose. Et donc, on peut aussi se permettre, dans le format court, d'avoir des structures beaucoup plus audacieuses, peut-être que dans les longs, expérimenter un peu plus. Et c'est ce que je trouve formidable, quoi. C'est un terrain de jeu extraordinaire. Et c'est vrai que l'idée de concentrer dans des formats courts, plein d'idées, c'est quelque chose qui nous est commun et qui nous excite beaucoup, je crois.
C'est aussi des films qui interrogent beaucoup, je trouve, enfin, la question du regard, le film After School Knife Fight, j'arrive pas, décidément pas à le prononcer ce titre, Commence sur la question du regard. Il y a un personnage qui dit à l'autre, pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Et dans vos deux films, Bertrand Mandico et Yann Gonzalez, il y a la question des spectateurs. On voit souvent des spectateurs qui assistent à des représentations ou à quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez à interroger, le regard, le cinéma ou sur le regard en général?
Je crois que c'est chercher une espèce de porosité entre le film et le spectateur, en fait. Que tout fusionne de manière incandescente, organique. Et c'est ce dont parlait Caroline tout à l'heure. C'est un rapport physique entre l'écran et l'œil, en fait.
Vous, Bertrand Mandico, dans Ultra Pulp, il y a une scène notamment où un personnage se retrouve sur Mars. Et est regardé par les acteurs. Il y a quelque chose qui est inversé dans le regard. Ce sont les acteurs qui nous regardent, d'une certaine manière. C'est quelque chose que vous aviez envie de retourner aussi ?
Ah bah oui, complètement. Moi, j'aime beaucoup cette idée d'ivresse quand on voit un film. C'est-à-dire qu'on perd le point de vue, quoi. On est intégré dans le récit. On est pris par la main aussi par les personnages. Donc l'idée de faire traverser l'écran, quoi, hein, c'est cette idée un peu carolienne, quoi, de l'autre côté du miroir, de l'autre côté de l'écran. Voilà, ça c'est quelque chose que je trouve vraiment vraiment passionnante à développer. Je crois que c'est vraiment aussi quelque chose qui nous est commun, quoi. Ouais.
Simon, regarde-moi. Dis-moi que tu me désires.
Merci.
Moi, je t'ai désiré tout de suite dès que je t'ai vu. Tu sais combien je t'ai attendu. Je te voulais en crever, Simon. Et toi, tu me faisais languir, tu jouais avec moi.
Ça n'avait rien d'un jeu. J'avais juste peur que tu te lasses, une fois que... Alors, je t'ai fait attendre. Pourquoi tu te remplisses de moi? De ton désir pour moi? Jusqu'à ce que ça devienne invivable, insupportable. Jusqu'à ce qu'on s'aime. Que je sois sûr de cet amour.
Sorcière.
Viens.
Yann Gonzalez, on entend un extrait donc du deuxième court-métrage du programme Ultra Rêve, le vôtre, qui s'appelle Les Îles. Et on entend ce dialogue où se joue quelque chose de l'ordre de la circulation des désirs, justement. Et c'est vraiment un point commun assez fort entre vos trois films. C'est cette chose-là, la circulation du désir, que ce soit le désir amoureux, le désir de cinéma. C'était ça que vous aviez envie de mettre au cœur de ce film-là?
Oui, après, c'est un film qui s'est écrit de manière assez spontanée. C'est un film qui s'est écrit dans le manque de tournage, parce que je devais tourner mon long métrage en 2016. Et puis voilà, on a tourné l'année suivante parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Donc il y avait cette urgence de filmer. Le film s'est vraiment écrit comme une espèce de rêve éveillé. Effectivement un côté un peu marabout, bout de ficelle, où un désir en entraîne un autre et on revient au désir du début du film. Donc oui, c'est une espèce de ronde des désirs, de ronde des fantasmes, nocturne essentiellement.
Et transgressif.
Oui, ça c'est pas à moi de le dire. Moi, je suis pas sûr, mais oui. En tout cas, il y a des ébats entre un jeune homme, une jeune fille et un monstre au tout début du film. Donc, est-ce que c'est transgressif de coucher avec des monstres? Je sais pas. Je pose la question.
Quelle place ils occupent, les monstres, dans votre imaginaire?
Une place primordiale, parce que le monstre, c'est l'altérité, c'est le grotesque, c'est la peur, donc c'est énormément de choses, un monstre au cinéma. Et puis c'est les monstres qui m'ont terrifié quand j'étais enfant et qui ont fini par dessiner des récits. La nuit, toujours, quand je me couchais, voilà, les monstres qui venaient me hanter à travers les films que j'avais pas encore vus, mais qui déjà me poursuivaient.
Vous, Bertrand Mandico, aussi, dans Ultra Pulp, votre court-métrage, on voit, il y a des scènes de tendresse avec des monstres, notamment. Est-ce que c'est aussi une figure qui vous inspire ?
Complètement. Et puis le il y a quelque chose d'extrêmement romantique dans la figure du monstre dans le cinéma. C'est pour moi c'est le mal aimé quoi. Hein. Donc je trouve ça assez intéressant maintenant qu'on a, j'allais dire, vu les monstres sous toute leur couture, hein, mal aimés, terrorisants dans les films. J'ai envie de qu'on les aime et de les montrer autrement quoi. Un petit peu comme Todd Browning avait pu faire avec Freaks, c'est-à-dire que tout d'un coup Todd Browning a dit mais c'est notre regard qui est monstrueux, mais les monstres ne sont pas monstrueux.
Vous, Caroline Poggi et Jonathan Vinel, est-ce que c'est une figure qui vous inspire aussi, le monstre?
Peut-être pas, enfin
pas directement dans ce
After
film-là.
School, ouais, mais dans Jessica, c'est quand même là le point de départ en fait. C'était
Jessica Forever, c'est votre long métrage qui va sortir.
Mais c'était une façon de, enfin c'était le point de départ du coup du film, et c'était de comment un monstre peut devenir aussi un héros et comment du coup lui donner une seconde vie en fait, c'est une seconde chance en fait, voilà. Donc oui voilà, enfin c'est quelque chose aussi voilà, en plein de notre travail. Dans
oui, c'est des monstres, mais c'est des monstres qui ont des visages humains, mais ils restent monstres comme autant peuvent l'être ceux de Yann ou ceux de Bertrand, mais c'est juste qu'ils ont vraiment... Nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi de savoir comment on devient monstre, comment on le reste, et pourquoi on l'est. En fait, c'est un peu des questions qu'on se pose, sans forcément y répondre, mais c'est un peu ce qui nous... Enfin, ce qui nous anime dans les films qu'on fait. Voilà. Mais qui se ressent moins dans After School, pour le coup.
Voilà. C'est une frontière qu'il faudrait abolir, ça, la frontière entre le monstrueux et l'humain, parmi les nombreuses frontières que vous pouvez essayer d'abolir dans votre cinéma.
Il faut abolir toutes les frontières. Voilà, par principe.
Tous les genres aussi.
Oui, il faut. J'aime pas cette idée de frontière, de cloisonner. Je pense que tout doit communiquer, se mélanger, et on doit rabattre les cartes. Voilà, ça c'est quelque chose que je trouve assez excitant pour créer, en tout cas.
Dans les genres, à la fois le genre pris comme le genre sexuel ou le genre cinématographique. Est-ce que vous faites un lien entre les deux?
Tout justement, cette non-frontière entre les gens, je l'aime dans tous les sens du terme, quoi.
Ouais. Oui, parce qu'il y a beaucoup de films qui parlent de frontières et de genres et qui se veulent des films qui vont traiter de sujets révolutionnaires, mais qui, dans la forme, ne sont complètement normés. Et c'est toujours un peu triste quand on a un sujet qui se veut un peu révolutionnaire, mais qu'on n'arrive pas à le placer dans la forme et dans sa façon de faire du cinéma.
Je pense qu'il y a peut-être un déficit de forme dans beaucoup de films français aujourd'hui. Je pense que ça nous attriste et qu'on a... on a envie que ça soit ultra forme, quoi. de trouver des idées. Je trouve qu'il n'y a rien de plus stimulant que la forme. Alors, finalement, il faut toujours qu'elle soit liée au personnage, au récit, mais pour moi la forme, c'est aussi de l'émotion. C'est vrai que moi je peux être ému par quelque chose de purement formel, par un film expérimental qui tout à coup va me mettre en larmes, quoi. Donc ouais, la forme c'est important, et je trouve qu'on n'y fait pas assez attention aujourd'hui, et même dans les commissions de financement, etc., on a l'impression que la forme est presque tabou. Donc c'est un peu triste. Il y a beaucoup de films gris, quoi, et je pense qu'on a on essaie de remédier à ça, donner un peu de couleur, un peu de folie, un peu de vie à la grisaille ambiante et à ce monde quand même à la fois terrifiant et morne.
Donc, ce qu'on entend aussi dans l'extrait qu'on a entendu des îles de votre film, c'est l'écriture du dialogue. Et la forme est importante. J'ai eu le sentiment aussi que dans l'écriture, il y avait quelque chose d'assez important. Et notamment, je trouvais qu'il y avait une forme de lyrisme particulière. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous prêtez attention?
Oui, en tout cas, j'essaie de trouver, de chercher une musicalité. Encore une fois, c'est un travail formel, le travail de l'écriture. Donc, j'aime que les mots résonnent d'une certaine manière et qu'ils forment des phrases musicales. Pour moi, c'est presque plus important que le sens. Qu'on se laisse bercer par les dialogues et qu'en même temps, il y ait des mots qui résonnent et qui provoquent des émotions chez le spectateur, chez moi d'abord, et puis après chez les autres. Mais j'écris beaucoup en pensant aux acteurs qui, à leur voix, aux acteurs qui vont interpréter le rôle. Ça m'aide beaucoup d'entendre une voix dans ma tête, et le dialogue file après ça. C'est une espèce de télépathie avec l'acteur, quoi.
Vous, Jonathan Vinel et Caroline Poggi, on avait entendu aussi la voix off qui est dans After School Knife Fight. Et on entend aussi un travail d'écriture et qui relève surtout de la voix off. Est-ce que c'est quelque chose aussi c'est une forme qui vous tient à cœur?
Oui, bah après, pour nous, les dialogues, en tout cas après la voix off, mais même en général, les dialogues, on essaye aussi de comme Yann, en fait, de les réfléchir pour une certaine poésie. Enfin, comment dire, c'est une façon, en fait, de placer nos personnages ailleurs, en fait, les sortir aussi de leur réalité. Voilà.
C'est une façon de les sacraliser et de ne pas les faire parler comme on parle dans la vraie vie, parce que souvent, on ne parle pas forcément franchement, on prend des détours, on hésite. Et là, nous, on essaye de les faire travailler comme s'ils parlaient comme des anges. Et du coup, qu'il y a un truc assez direct, très très premier degré, ils font pas tout entendu. Et je crois que c'est ça qui nous plaît, c'est d'en faire des, espèce de chevalier qui serait tombé sur terre et qui parle de façon très naïve, mais très simple. Enfin.
Alors qu'ils sont dans un contexte qui est un contexte extrêmement concret, trivial, contemporain.
Ouais, mais c'est, je pense
c'est
que
ce décalage-là que vous voulez créer.
Ben, ça nous permet d'essayer de réenchanter les choses et de les montrer autrement, en fait. Je sais pas comment dire, c'est comme si on enlevait. Pour qu'en fait, on voit mieux ce qui se passe. Je sais pas si c'est très clair, mais...
Voilà. Si, si.
D'enlever tous les tics de langage qu'on pourrait avoir, les « ouais », les « je sais pas », les... Enfin voilà, c'est vraiment d'être assez collé à ce qui est écrit dans le scénario, et ce qui est pas souvent facile, voilà. Et pour, voilà, ce que dit Jonathan, pour emmener ailleurs, pour déplacer, on va dire, la parole, et du coup, en même temps, ces personnages et ce monde. Je pense que même si l'univers de After School est assez réaliste au final, contemporain, il y a quand même un espèce de petit décalage qui fait que c'est pas un monde certain non plus, en fait. Voilà, on n'est jamais sûr. Enfin, voilà. Je pense que le dialogue prend part à ça.
Finalement, tous les quatre, ce contre quoi vous luttez entre guillemets, c'est ce qu'on peut appeler le naturalisme, ou une forme de cinéma qui essaierait de reproduire la réalité, mais de manière fictive. Bertrand Mandico.
C'est pas forcément une lutte. C'est en tout cas, on fait.
Enfin, de ne pas faire ça.
On fait naturellement ce qui nous vient et ce qui nous vient, c'est de pas faire ce que font les autres en grande majorité. Et effectivement, il y a cette stylisation assez forte, mais qui nous vient naturellement, hein, que ce soit par la forme, parce qu'on fait, on a cette, j'allais dire ce point commun de non-naturalisme, mais on a chacun nos univers bien distincts, quoi.
Oui, oui.
Ce que disaient Caroline et Jonathan sur le texte, par exemple, je trouve ça vraiment très intéressant, quoi, cette façon d'être direct. Alors moi, j'ai l'impression d'être l'inverse, hein. Je suis dans les volutes, je vois plus mes dialogues comme du lierre qui s'entortillerait autour d'un arbre, et l'arbre serait le film. Voilà. Donc, c'est plusieurs façons d'aborder un cinéma non naturaliste. Finalement, il y a un champ des possibles infini, quoi. Et donc, nous, ce qu'on a envie, c'est d'ouvrir l'éventail et d'éventer le spectateur.
Le cinéma est un singe aux yeux lumineux qui griffe quand il caresse. Tu vois, Gisou, la jeunesse me tourne le dos. Je n'arrive pas à la retenir avec mes histoires de crépuscule.
You dominate your world.
Quel monde? C'est la fin de mon histoire.
In the next world, the images will last. Bodies will rot.
C'est elle qui m'intéresse maintenant. Les films, je m'en tamponne.
Your vanity is matched only by your stupidity. Strip and bow. You should be proud to film for me.
Bertrand Mandico, c'est un extrait de Ultra Pulp, votre court-métrage où on entend un personnage qui campe une figure de réalisatrice qui dialogue avec un singe qui parle en anglais, notamment. Et on peut voir Ultra Pulp, entre plein d'autres choses, un hommage au film interdit. Est-ce que c'est ça aussi que vous avez voulu faire à travers ce film? Rendre hommage au film interdit?
Alors, pour moi, ça n'existe pas, les films interdits. Par contre, je pense qu'il y a des films monstres, des films voyous, des films mal aimés, et c'est un hommage à ça, à ces films monstres, quoi. Un peu bizarrement fichus, qu'on a eu honte de voir, voilà. Donc je rends plutôt hommage à ce cinéma monstre.
C'est quelque chose qui est important aussi dans les références que vous pouvez avoir les uns et les autres. Cette idée de film monstre, de film pas comme les autres, entre guillemets.
Bah, de film qui se trouve dans sa forme et qui est pas forcément stable, qui prend des films un peu mal fichus, qui boitent, mais qui ont une émotion. Je sais pas quoi.
Oui, moi aussi, ça m'intéresse beaucoup plus que les chefs-d'œuvre adoubés par tout le monde. Les films parfaits, bon, c'est assez emmerdant. Je préfère les films un peu malades et tout à coup, il y a une épiphanie, quoi.
Quel film, par exemple?
Il y en a des tas. Je sais pas, tout à coup, je pense, le premier nom qui me vient, c'est Lucio Fulci, qui est un cinéaste italien qui a touché à quasiment tous les genres, notamment au cinéma fantastique et au cinéma, au thriller malsain, étrange, bizarre. Voilà, il y a des moments assez complètement plats d'enquête policière et tout à coup, il y a une espèce de folie, de mise en scène qui devient vraiment de la pure poésie. Et il y a aussi des chefs-d'œuvre absolus de Lucio Fulci, notamment un film qui s'appelle La longue nuit de l'exorcisme, où là il y a rien à jeter, mais voilà, c'est un cinéaste aussi inégal. Mais dans chacun de ses films, il y a une vision, il y a la passion, il y a de l'excès, quoi. Et ça, moi, ça me fait du bien.
Bertrand Mandico, dans Ultra Pulpe, il y a tout un travail autour du cinéma. Donc il y a un personnage de réalisatrice et des actrices qui sont d'ailleurs toujours au féminin.
Oui.
Oui. Et on pourrait imaginer que ça pourrait créer un effet de distanciation et d'étrangeté sur le spectateur. C'est-à-dire, on veut dire que finalement, une séquence qui peut relever d'une certaine étrangeté, il y a une scène qui nous fait dire « Ah non, en fait, on est au cinéma ». Mais c'est finalement l'inverse qui est créé. C'est-à-dire, l'effet d'étrangeté est toujours maintenu. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais où on est dans Ultra Pulpe. Est-ce que c'était un effet que vous vouliez produire ?
Ben oui, parce que dès que le spectateur commence à s'installer dans le récit et avoir des repères et se dire ben ça y est j'ai compris, ou anticiper sur ce qu'on a perdu. Pour moi, on a perdu le spectateur. Il faut que le spectateur ne puisse pas anticiper, ne puisse pas comprendre ce qui va se passer, et comme ça on peut le mener en bateau, j'allais dire, le faire traverser. Et enfin, pour moi, voilà, c'est en tout cas en tant que spectateur, c'est ce que je recherche. Donc j'imagine que je suis pas le seul, et c'est comme ça que je construis mes récits.
C'est ça, accepter de se perdre, en fait, ne pas forcément tout comprendre, se perdre dans nos propres films, laisser des béances de sens, des béances plastiques. Ça, pour moi, c'est un combat aujourd'hui, parce que il y a tout quand on passe des commissions de financement, etc. Tout doit être littéral et balisé, expliqué. Et ça, c'est terrifiant, cette espèce de normes comme ça qui nous emprisonne et qui écrase toute la poésie.
C'est une question qui revient assez souvent, ça, même dans d'autres domaines artistiques, la question de aujourd'hui, pour produire un film, il faut produire avant un dossier. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu à faire et contre lequel vous avez eu à vous inscrire?
Ah ben, tout le temps, on est des hommes, des femmes de dossier. Malheureusement, comme des petits bureaucrates, on doit rendre nos copies, etc. Mais ça, c'est voilà, ça fait partie du jeu. En même temps, pour nous, c'est une façon aussi de d'écrire des textes, puisque on part de textes, de collecter des images et puis essayer de faire comprendre ce qu'on a en tête et ce qu'on veut faire. Ces dossiers servent à ça, hein, à faire comprendre au lecteur, au fameux lecteur, ce vers quoi on va. Après, le problème, c'est les grilles de lecture qui sont appliquées sur ces dossiers, qui sont parfois un petit peu académiques ou conventionnelles. Donc voilà, mais c'est, les dossiers sont aussi accompagnés de nos films, donc les films sont là pour épauler
ou contredire le dossier.
Ou contredire, peut-être, ouais. Voilà.
Caroline Poggi et Jonathan Vinel, vous, quel regard vous portez sur cette manière de faire aussi du cinéma? De les présenter dossiers. Un dossier avant de faire un film?
Non, mais après, c'est
vous
vrai que c'est...
Comment
bah, moi, je pense que c'est quand même important, dans le sens où on n'est pas seul, c'est qu'il y a aussi une équipe. et des acteurs. Enfin voilà, il y a des gens aussi qui vont lire ces mots, regarder ces images, etc. Après oui, effectivement, c'est le problème du dossier, c'est que quand vous avez un nom d'une commission avec des retours, etc., ça peut vous renvoyer encore 6 mois après. Enfin, ça peut être vraiment un trou sans fin, en fait. Et du coup, faut aussi savoir comment parader, en fait. Voilà, mais c'est... en même temps, c'est un objet, je pense, très utile. Et en même temps, ça peut être une longue chute vers la mort, en fait. Dans le sens où on va attendre. Et je crois qu'il n'y a rien de pire pour un réalisateur que d'attendre, en fait, ouais. Quand il a le désir qu'il a.
D'attendre de pouvoir faire un film.
Ouais. Mais je crois que c'est pour ça. Ouais, pardon.
Non, mais je pense que la mort du désir, c'est terrible, en fait. C'est d'attendre. Enfin, voilà, c'est...
Mais tous les 3 films qui sont dans le programme, j'ai l'impression que c'est que des films qui ont été faits parce qu'on, justement, compte des dossiers et parce qu'on attendait, justement, sur nos longs métrages, d'avoir des sous. Enfin, en tout cas, Jessica, c'était ça. Enfin, After School, c'était ça parce qu'on attendait d'avoir des financements pour Jessica.
Ouais, les îles aussi.
Bertrand, j'ai l'impression que tu l'as fait juste après parce que
tu l'as fait après, mais j'avais écrit avant. Ouais.
Mais c'est qu'il y a toujours un truc où. Ouais, où en fait, je pense qu'on a besoin d'alterner entre quelque chose où on a besoin de financement, c'est un long métrage, et du coup on peut pas le faire comme un court métrage. Et je pense que c'est pour ça que les films s'équilibrent comme ça, et les désirs aussi en fait. Mais des dossiers.
Plutôt que dossier, moi je préférais qu'on parle de partition, quoi. Hein, parce qu'il y a le dossier effectivement pour avoir des subventions, mais après ce que tu disais à juste titre, Caroline, c'est qu'on crée une partition pour l'équipe, pour les acteurs, pour que tout le monde puisse jouer le film qu'on a en tête et que ce soit assez clair pour tout le monde. Alors la notion de musique, moi je la trouve vraiment intéressante parce que par rapport au groupe, quoi. C'est-à-dire que les musiciens ont la chance de pouvoir faire des groupes et de jouer ensemble. Et nous, cinéastes, on peut pas faire ça, quoi. Et voilà, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire un groupe, quoi, en quelque sorte. et donc, voilà, il faut aussi voir ces 3 films comme nos morceaux joués.
Un album.
Voilà, un album concept.
J'ai une dernière question qui vous concerne, Bertrand Mandicot. D'où vient le singe? Le singe qu'on entendait dans l'extrait.
D'où vient le singe? Il vient de mes traumatismes d'enfant liés au cinéma. C'est-à-dire que je voyais le cinéma comme un singe, quoi. Et parce que j'ai vu plusieurs intros de films comme ça, comme La Planète Sauvage, King Kong, etc. Et après, mes parents m'envoyaient me coucher. Donc je voyais des arrivées de singes. Et puis j'étais hyper impressionné. Je voulais voir la suite. Et puis non, t'es trop petit ou va te coucher. Donc je fantasmais la suite du film. Et donc voilà, c'est ces arrivées de singes qui m'ont énormément marqué. Pour moi, le cinéma était un singe.
Merci. Merci à tous les 4.
Merci
Caroline Poggi, Jonathan Vinel, After School, Knife Fight, c'est le titre de votre court-métrage, Yann Gonzalez, Les Îles, Bertrand Mandicot, Ultra Pulpe. Les 3 sont rassemblés sous le titre Ultra Rêve et il y aura une première ce soir au MK de Beaubourg à 20h. Et il existe un 33 tours du film Ultra Pulpe avec la musique d'Ultra Pulpe, Bertrand Mandicot.
Oui, et quelques dialogues.
Merci à tous.
France Culture, La Grande Table d'été, par Romain de Bec-de-Lièvre.
Vous écoutez France Culture, il est 13h17, tout de suite la deuxième partie de La Grande Table, un portrait du pianiste Gauthier Toux.
Thank you.
Bonjour Gauthier Théous.
Bonjour.
On écoute un extrait, le morceau Same Answer, qui est extrait de votre troisième album The Colors You See, qui est sorti au mois de mai sous le label Naïm Records. À l'origine de cet album, il y a un projet autour des couleurs, justement The Colors You See. Est-ce que vous pourriez nous en parler ?
Oui, pas de souci. En fait, le projet autour des couleurs, à la base, ça naît d'une blague, parce que je suis daltonien, et que je me suis dit que ça pourrait être marrant de faire un truc autour des couleurs. Mais c'est vite devenu plus qu'une blague. En vérité, depuis que j'ai commencé à écrire de la musique, ça fait une dizaine d'années, j'avais 14-15 ans. Ce qui m'a très très vite intéressé, même quand j'écoute de la musique, c'est pas spécialement l'aspect technique, c'est pas spécialement le tempo à la base ou le rythme. Évidemment, ça, c'est aussi important pour moi, mais ce qui est vraiment hyper important, c'est la couleur, la texture. Peu importe que je sois daltonien d'ailleurs, c'est vraiment l'habillage d'une musique, l'habillage d'une mélodie, peu importe l'esthétique musicale d'ailleurs. Et du coup, toutes les possibilités d'habiller la musique en soi, c'est assez abstrait comme ça. Du coup, il y a des titres dans l'album qui sont assez abstraits, qui parlent de choses plus profondes, et il y a des titres plus qui rentrent dans la blague, comme Same Answer par exemple, ça fait partie de...
En fait, ça, pourquoi c'est une blague ?
Il y a un titre qui s'appelle aussi It All Depends on the Light.
Ça dépend de la lumière.
Ça dépend de la lumière. Et en gros, ces deux titres, ils vont ensemble. C'est que j'ai toujours donné la même réponse aux gens qui me demandaient de quelle couleur était tel ou tel truc. C'était ça dépend de la lumière.
Quand on est daltonien.
Ouais. Ouais, après, c'est peut-être pas vrai, mais en fait, ça me faisait tellement. Ça m'ennuyait tellement que je préférais dire que ça dépend de la lumière pour éviter de répondre à la question, en fait.
Qu'est-ce qui ne vous intéresse pas trop dans la technique ? Dans le piano et dans le jazz en général ?
En fait, j'adore l'aspect technique de la musique, tant qu'il sert la musique. J'aime pas l'aspect démonstratif. Je suis très impressionné et très très respectueux des musiciens qui ont des techniques affolantes, bien plus affolantes que la mienne, d'ailleurs, et qui vont à des vitesses pas possibles avec une super grande précision. Je trouve que ça, c'est hyper remarquable. Mais encore une fois, tant que ça sert la musique, quoi. Tant que personnellement, moi, ça me touche. Si c'est de la performance musicale, pour de la performance musicale, ça, personnellement, ça m'intéresse pas trop. Mais je respecte, hein, ces musiciens montent sur scène et ont leur propre esthétique musicale. Et voilà, moi, c'est juste que il y a des musiciens qui utilisent leur technique à bon escient, je dirais, et qui s'en servent magnifiquement bien dans les pianistes. Il y en a un notamment qui a peut-être une des plus grosses techniques de ever, qui s'appelle Brad Meldo. Qui est un immense pianiste, pour n'en citer qu'un seul, hein, bien sûr, hein, dans les plus récents et que les gens connaissent de manière générale. C'est un pianiste qui est capable de jouer tout et n'importe quoi, mais il est aussi capable de jouer rien. Et ça, c'est vraiment important, quoi, pour moi.
Vous pensez que la technique, à un moment donné, ça peut gêner le talent ? Enfin, en tout cas, le talent, c'est peut-être pas le meilleur mot.
En tout cas, je pense que ça peut gêner un musicien, ouais. Et personnellement, il y a eu un moment dans mon apprentissage, qui est toujours actuel, hein, l'apprentissage dans la musique, c'est toute une vie, mais en tout cas, dans mon apprentissage au conservatoire, il y a eu un moment donné où je me suis un peu enfermé dans ce truc technique. Je pense que j'ai l'impression d'avoir un truc à prouver. Et du coup, je me retrouvais à jouer plein de notes tout le temps. Comme dans le jazz, il y a beaucoup d'improvisation. On a une grande part à... Il y a souvent des moments de solo, donc on est tout seul. Et du coup, on se dit, il faut vraiment que j'impressionne les copains, il faut que j'impressionne je sais pas qui dans la salle. Du coup, j'en jouais des notes, j'en jouais une quantité. Ça, je me rendais fou, quoi. Alors, quand je réécoute les trucs, parfois, je me dis, pourquoi t'en joues autant, ça sert à rien. Mais du coup, je suis content d'être passé par là pour me rendre compte que ça, c'est pas pour moi. Mais du coup, je continue à la bosser comme un malade, hein, pour être capable de jouer les choses quand j'ai besoin. Mais du coup, je pense qu'effectivement, en tout cas, pour ma part, ça a pu être un frein à un moment donné. Un frein, peut-être, je sais pas si c'est un frein, parce que finalement, si c'est un frein, c'est un mur, on recule, on prend de la distance et on le contourne finalement. Mais je pense que chez les musiciens en général, ouais, ça peut être un frein dans le sens où on peut tout de suite penser que c'est une fin en soi, alors que pour moi, ça l'est pas du tout.
Qu'est-ce que ça vous fait de réécouter les morceaux ? Vous avez envie d'en écouter Answer ?
Justement, ça faisait longtemps que je ne l'ai pas réécouté. Je me dis que, en l'occurrence, là, je me dis que c'est cool. c'est l'effet que je voulais que ce morceau ait dans le disque, en fait. Et généralement, j'ai du mal à réécouter les morceaux assez vite. J'évite de les réécouter tout de suite. Et quand je les réécoute avec un peu de recul, en tout cas sur les deux derniers albums qu'on a fait, sur les autres trucs que j'enregistre avec d'autres gens, généralement je suis assez content, quoi. Parce qu'on va au fond des choses et on se pose des bonnes questions. Donc généralement, je suis content. Toujours, je me dis toujours, tiens, là, on aurait pu faire mieux, mais j'ai appris à apprécier, en fait, à réécouter les choses et à me dire, bah, ça, c'était, c'est l'image de, c'est une image musicale de nous à un temps donné, quoi.
Le lendemain de l'enregistrement.
Et la veille, ça aurait été complètement différent. En tout cas, pas complètement différent, mais ça aurait pu être différent. Peut-être ça aurait été un peu mieux ou un peu moins bien. En tout cas, là, c'est ce que c'est et moi, j'en suis assez content, quoi. Donc, c'est assez cool de réécouter. Ouais.
Et vous repercevez le système des couleurs, justement, en réécoutant?
Ouais. En tout cas, dans les panels de couleurs que j'ai voulu utiliser, que j'ai voulu un peu évoquer, quoi. Là, c'est plus. Là, dans ce morceau-là, en fait, je cherchais vraiment une couleur un peu plus pop, un peu plus groove que certains autres morceaux du disque. Peut-être un peu plus accessible aussi, du coup. Du coup, j'ai mis plus en avant des couleurs un peu plus épurées, un peu plus simples, avec une tourne de batterie, un peu rock comme ça. Et du coup, le tout mélangé fait que effectivement, ça donne quelque chose où les gens ont envie d'un peu bouger la tête, quoi. C'était un peu l'idée.
Ce qui manque beaucoup par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est des endroits qui se prêtent à être comme des laboratoires, c'est-à-dire là où la musique se fait et s'invente. Maintenant, il y a, que ce soit les clubs ou les endroits où il y a des concerts, tout se prête très bien à ce que la musique soit jouée, mais pas à ce que la musique s'invente. Parce que c'est une musique qui s'invente pas dans n'importe quelle condition. Ça s'invente à partir du moment où tout le monde est à l'aise avec le son, où il y a beaucoup de musiciens qui sont là, qui peuvent éventuellement s'ajouter, faire le bœuf, où les gens sont là pour faire la fête, même si la musique est très profonde et si tout le monde écoute ça dans un silence très religieux, il y a toujours cette notion de fête pour oublier la tristesse, on pourrait dire. Le Duc, c'est l'endroit qui est un des endroits qui est le plus près du compte, vraiment. Dans le sens où le climat, où il y a un climat de musique et de jazz, vraiment, où les musiciens peuvent venir, où les gens qui tiennent l'endroit aiment la musique et les musiciens. Et ça, c'est très important par rapport à des tas d'endroits qui ont été ouverts par des gens qui ne connaissent absolument ni le jazz, ni la musique, ni les musiciens qui en ont rien à cirer. Parce qu'il y a un climat qui permet de respecter cette musique-là.
On entend la voix de Simon Goubert, un batteur de jazz, qui parle de ce lieu, le Duc des Lombards, dans une archive de 1991. Le Duc des Lombards, c'est un bar à Paris où on joue du jazz, c'est un club de jazz. Vous, Gauthier Toux, c'est un endroit qui est assez important et qui revient assez souvent quand on peut lire des interviews de vous. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il représente pour vous ?
Le Duc, c'est un peu un endroit mythique du jazz à Paris, quand même. En tout cas, de ces 30 dernières années... Tout le monde a joué là, quasiment tous les grands musiciens de jazz ont joué là, ou via ce club, ils ont aussi pas mal de concerts organisés hors les murs dans certaines salles de Paris. Depuis quelques temps, c'est aussi le club qui est rallié avec TSF, jazz,
la radio.
La radio jazz sur Paris, quoi. Et puis voilà, moi, quand j'étais petit, quand j'étais ado, j'écoutais des lives, il y a des lives du TSF justement au Duc.
Enregistré au Duc,
ouais, j'en ai écouté plein. Je me suis toujours dit, ouais, j'ai absolument envie de jouer là. Et pour la sortie mais celui d'avant, Unexpected Things, j'avais écrit au programmateur en lui disant, voilà, on se connaît pas, mais voilà, je vous envoie mon premier album. Il avait répondu étonnamment, ouais, c'est cool, on va les diffuser sur TSF. Donc ils avaient diffusé notre tout premier disque qui n'était pas commercialisé. Et ensuite, je leur ai écrit pour le deuxième. Et il m'a dit, ouais, c'est cool aussi, on va aussi le diffuser sur TSF. Et du coup, je lui ai dit, est-ce qu'on ferait pas la sortie de disque au Duc ? Il m'avait dit oui. Et du coup, on a fait un premier concert, je crois que c'était le 21 avril 2016. Et pour moi, c'était vraiment, je trouvais ça cool, quoi. C'était un peu,
passer un cap.
On n'était pas arrivé quelque part. En tout cas, on essaie, quoi. Plus ou moins. C'était un peu notre acte de naissance dans le jazz français européen. ça veut dire qu'on n'était rien, quoi. Ça, c'était point zéro, on a joué au Duc des Lombards, quoi. Alors, point zéro, oui et non, parce qu'il ne programme pas non plus n'importe qui, n'importe quand. C'est qu'il avait dû entendre peut-être parler de nous un petit peu, parce qu'on jouait un petit peu en France depuis un an ou deux. Mais en tout cas, c'était pas une fin en soi, quoi. C'était genre, voilà, à partir de là, ça va peut-être nous permettre d'aller un peu plus loin, quoi. Ou on sait pas, mais... Et du coup, après, on a refait deux dates l'été. Et on a rejoué une quatrième, encore une fois, en janvier 2017. On a sorti le disque, là, au mois de mai. On y a joué cinq fois en tout. Et puis voilà, les quatre dernières fois, c'était plein. Donc c'est cool, ça veut dire que ça prend. C'est aussi, ils nous font confiance. Ils savent qu'on va aussi ramener du monde. Et du coup, donc voilà, pour moi, c'est un lieu assez important, en tout cas, dans l'histoire du trio. Ouais. Et dans l'histoire du jazz français, ça, c'est certain.
C'est un laboratoire, comme on entendait dans l'archive de Simon Goubert. Vous diriez que c'est ça? Enfin, que ça reste ça encore aujourd'hui?
Alors oui, parce qu'il y a des jam sessions, donc des endroits où, enfin, c'est jam sessions, c'est des moments où les musiciens viennent jouer ensemble sans forcément se connaître, des morceaux que sans répéter, comme ça, on se dit un morceau, c'est généralement des standards. Et c'est le vendredi, samedi, ça commence à 23h30, c'est fini à 4h du matin. Et puis voilà, on a tous des anecdotes énormes au Duc le week-end avec des jazzmen de partout, des stars qui ont joué à Paris le soir même, qui viennent jamais au Duc. Enfin voilà, c'est un lieu de laboratoire dans ce sens-là aussi. C'est plein tout le temps. Il y a pas mal de touristes qui viennent là, du coup, parce que c'est un lieu très connu. Donc, ils viennent là boire un verre et ils se retrouvent avec des super musiciens français ou européens ou américains devant eux qui jouent ensemble jusqu'à pas d'heure, quoi. Donc, voilà, ça reste, c'est sûr que ça reste un des laboratoires, pas le seul, mais ça reste.
Vous diriez, ouais, que le jazz, il a ses lieux en France et dans le monde particulier?
Alors, oui. En tout cas, moi, je connais bien la scène suisse et je connais bien la scène française. Donc, oui, c'est clair, il y a des endroits pour le jazz. Il y a des endroits qui ne se prêtent pas du tout au jazz, il y a des endroits qui s'y prêteraient mais qui ne sont pas accessibles. Et il y a des endroits qui étaient comme ça mais qui deviennent accessibles. Je pense que c'est pas mal en train de changer quand même depuis quelques années. Par exemple, à Paris, il y a des lieux qui ont ouvert récemment, dont un lieu qui s'appelle La Gare, à Corentin-Cariou, dans le 19e. Et en fait, c'est une ancienne gare désaffectée qui était un squat, je crois, qui a été racheté par un mec qui tenait la fontaine de Belleville. Il en a fait un club de jazz où il y a de la musique tous les jours, du lundi au dimanche, avec des artistes en résidence, des concerts dans les samedis et des jams, mardi et jeudi, je crois. Et là, c'est un laboratoire aussi de fou, quoi, parce que c'est l'entrée gratuite, les consommations sont pas très chères. On peut payer par carte à bas régime. Il fait des sandwichs. Enfin voilà, il paye correctement les musiciens. Ouais, voilà, il les paye correctement. Il déclare les musiciens. Enfin, je veux dire, c'est des lieux comme ça. Il y en a quand même 3-4 qui se sont créés cette année. Il y en a encore d'autres qui vont se créer, si j'ai bien compris, l'année prochaine. Il y a une espèce de tournure. C'est des nouvelles scènes qui arrivent, quoi. Parce qu'il y a quand même beaucoup de musiciens ici à Paris. Donc il faut qu'il y ait des endroits pour jouer. Il faut des nouveaux endroits. Et la gare, on joue devant 300 personnes. Moi, j'y ai joué au mois d'avril avec quelqu'un d'assez connu sur la scène française et c'était blindé. C'était les premiers beaux jours. Il y avait genre 500 personnes entre 20 et 35 ans, quoi.
Vous diriez que c'est un milieu actif, le jazz, en France?
Alors,
enfin, actif et en tout cas productif, où il se passe des choses.
Ouais, oui.
La création.
Oui, de plus en plus. En tout cas, je pense que ma génération et celle, disons, celle de 10 ans de plus, celle qui est entre 35 et 40 ans, je pense que oui, c'est hyper créatif, quoi. On voit des musiciens qui commencent un peu à aussi casser les barrières, à mélanger le jazz et le classique, à mélanger le jazz avec d'autres musiques. On n'a plus vraiment peur. En tout cas, peut-être les seuls qui ont peur de tous ces mélanges, parfois, c'est peut-être la presse, parfois, qui ont peur, parce que du coup... comment on va ranger tel ou tel mélange, comment on va pouvoir dire ça. Et c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, c'est plutôt un fait, quoi. C'est toujours difficile de parler d'un artiste ou de deux artistes de milieux complètement différents qui jouent ensemble tout à coup, c'est qui se crée. Mais je pense que les musiciens ont de moins en moins peur de faire ça. Par exemple, nous, la semaine dernière, on a fait une création avec un quatuor à cordes classique, dans un festival de musique classique d'ailleurs. Et dimanche soir, on jouait en Belgique, à Gaume, dans un festival. Et après nous, il y avait Émile Parisien avec Jeff Mills.
De la techno.
Ouais, donc c'est un pont de la techno. C'est un des créateurs de cette musique qui était là au tout début. Et là, il joue de la musique improvisée avec ses machines et Émile Parisien au saxo-soprano. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres, quoi. Donc, je trouve que, ouais, là, on est vraiment dans un processus de création et qui est hyper intéressant, quoi. Parce que ça permet peut-être de faire avancer le public un peu plus loin, quoi.
Vous avez été formé à l'école de musique de Lausanne. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette école? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté?
Déjà, à la base, j'y suis allé parce que des copains m'ont dit « Faut que tu viennes là, c'est super, tu vas voir. » Et puis, le prof de piano, là-bas, c'est Émile Spani. C'est un pianiste hongrois qui vit en France depuis 20 ans, qui a fait le CNSM à l'époque où c'était... Daniel Humer et François Jeannot qui tenaient la classe de jazz, qui sont deux musiciens qui ont quasiment créé la scène de jazz en France à partir des années 60. Et c'est un pianiste hors pair, et compositeur hors pair aussi, arrangeur hors pair, et pédagogue comme j'ai jamais vu dans ma vie, quoi. Donc c'était assez incroyable parce que moi je suis arrivé là-bas, j'avais 18 ans, et j'en avais plein la tête. J'avais envie de percer, j'avais envie de faire, j'avais l'ambition d'un gamin de 18 ans qui fait de la musique, quoi. Et avec ce que ça comporte de bien et de pas bien d'ailleurs, mais du coup je lui ai dit voilà, moi j'ai envie d'arriver, j'ai envie de faire une carrière, gna gna gna. Il m'a dit ah ouais d'accord, ok, et il m'a dit tu vas voir. Et j'ai vu.
Vous avez vu quoi?
J'ai vu, il m'a fait travailler toute l'histoire du piano jazz du 20e, plein de musique classique aussi, écrire pour orchestre, écrire pour tout ça. Il m'a fait bosser des heures et des heures par jour, comme il faisait avec ses autres élèves. Dès qu'on lui montrait un peu d'intérêt et de motivation, quoi, c'était source infinie de savoir. Et du coup, ça m'a aussi permis d'être dans une dynamique de travail, de rencontrer plein de musiciens avec lesquels j'ai fait plein de projets différents, que ce soit mon trio, je l'ai créé là-bas. J'ai fait aussi plein d'autres groupes avec des copains là-bas. J'ai joué plein de musique. On avait un groupe de hip-hop avec des copains dans l'école. On a fait de la musique électronique. On a fait plein de trucs, quoi, et ça m'a aussi permis d'aller en Erasmus au Danemark en master, parce que le directeur de l'école connaissait bien le directeur là-bas, et Copenhague c'est un super conservatoire, donc ça m'a permis de faire un Erasmus là-bas. Enfin voilà, c'était
une plateforme musicale
vraiment énorme. Le seul truc, c'est que c'est une toute petite ville, la Suisse c'est un petit pays, donc en fait la Suisse en elle-même c'est plus petit que la région parisienne, et il y a un club de jazz dans quasiment toutes les villes, il y a plein de festivals, donc en fait il faut voir la Suisse comme une seule et même scène. Et non pas chaque ville comme une scène, parce qu'effectivement Paris a beaucoup plus de choses à faire qu'à Lausanne, c'est une évidence. Du coup le seul truc, c'est pour ça que après généralement on reste toujours, tout le monde est quasiment resté à Lausanne, mais en tout cas on reste, mais on va voyager un petit peu, on revient, on repart, on revient, quoi, pour aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Mais c'est une plateforme musicale énorme, la Suisse en elle-même, il y a 5 ou 6 conservatoires supérieurs où on peut passer des licences et des masters en jazz. Là où il n'y en a que... des masters de jazz, il n'y en a qu'un en France. C'est au CNSM de Paris. Sur un pays de 70 millions d'habitants. Et en Suisse, sur un pays qui en fait 9, on peut en avoir... Il y a 6 endroits où on peut passer. Donc, ils ont quand même certaines avances, à mon avis, sur la pédagogie musicale par rapport à nous, à mon avis.
Gauthier Toux, on écoute un deuxième extrait de votre album The Colors You See, c'est celui qui s'appelle Filter, et on entend tous les instruments qui composent cet album. Vous avez un trio à la base, donc vous l'évoquiez tout à l'heure, que vous avez rencontré notamment à l'école de Lausanne. Mm-hmm. Comment cette formation elle est apparue et comment les instruments peuvent s'ajouter, là, notamment les cuivres?
Ben alors cette formation elle est apparue en fait à la base, c'est la rencontre entre le batteur Maxence Sibyl et moi. On a 10 ans d'écart, donc quand je suis arrivé à l'école, il finissait ses études. Et donc comme je disais tout à l'heure, moi j'arrivais, machin, à mes ambitions, et j'avais une bouche grande comme ça. Et je parlais beaucoup. Et lui c'était un peu le mec qui jouait beaucoup, tout ça. Donc c'est pareil. Il l'a ramené pas mal aussi. Mais voilà, c'était il y a 7-8 ans ça déjà. Et au début on supportait pas, et un jour on a joué ensemble, et c'est vraiment la musique qui nous a rapprochés. On a joué un petit peu ensemble, et il y a eu un événement dans sa vie qui a fait qu'on s'est rapprochés. Et du coup on a été coloc pendant 4 ans. Et le trio est né à ce moment-là quoi. Finalement on a un peu chacun... Comme on dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et on a un petit peu appris à se réapprendre. Et en tout cas, musicalement, ça marchait super. Et donc, du coup, on est devenus hyper amis et musicalement aussi. Et un jour, on a eu besoin d'un bassiste. Donc, on a rencontré Kenneth, qui est le bassiste du trio. Et du coup, après, voilà, la musique s'est faite au fur et à mesure des concerts et des tournées. On a fait 3 disques ensemble.
Qu'est-ce qui fait qu'un trio fonctionne ? C'est quoi? C'est des habitudes? C'est une manière de jouer tout le temps ensemble?
Je pense que ça se fait naturellement, quoi. Ça marche ou ça marche pas. Je pense qu'il n'y a pas de secret, quoi.
Ça se sent immédiatement?
Ouais, il y a une osmose qui se crée, il y a un truc où on est d'accord. Par exemple, moi, je joue beaucoup avec le batteur, donc il faut que ça marche aussi. Il faut que le bassiste, en même temps, soit à l'écoute de ce qu'on propose. Il soit capable de se dire, bah là, je reste en retrait, je tiens un peu la maison, je fais un peu le fondement, et puis tout à coup, ce sera mon moment, quoi. Pour moi, c'est un peu, c'est des échanges à trois tout le temps, et pas toujours dans le même sens. Donc, il faut être capable d'écouter tout le temps, de prendre en considération l'autre, de laisser ça de la place, de pas vouloir prendre trop de place, mais de savoir la prendre quand il faut la prendre aussi. Et ça s'invente pas, quoi. On peut jouer avec, les meilleurs musiciens du monde, si ça marche pas, ça marche pas. C'est dans n'importe quoi, finalement. C'est des choses qui se font naturellement, et nous, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, pour le deuxième album, j'ai voulu inviter deux amis, Erwan Valadza à la guitare et Zeka Aixic à la trompette, qui sont sur le troisième album aussi. C'est des musiciens avec lesquels j'ai étudié à Lausanne, avec lequel j'ai fait vraiment beaucoup de musiques différentes, de la pop, comme je disais tout à l'heure, au hip-hop, musique électronique, jazz. On a fait plein de trucs ensemble, et je leur ai dit, voilà, je vais écrire de la musique pour vous. C'était deux morceaux.
C'est vous qui allez composer.
Ouais. Ouais. Deux morceaux sur le deuxième disque, du coup. Et on a fait quelques concerts ensemble, parmi des concerts assez importants. Le premier Duc des Lombards, c'était avec eux. On a fait le Queen Jazz Festival, qui est un gros truc avec eux aussi. On a fait pas mal de concerts. Et donc ça a vraiment bien marché. Ensuite, on a pas mal tourné en trio. Et l'année passée, on m'a proposé une résidence en Suisse de 2 fois 4 jours sur 2 semaines, pour laquelle je me suis dit, bah, je vais la reproposer. Et entre-temps, on avait joué au Duc aussi, justement, d'ailleurs, encore une fois, Luc des Lombards, avec Christophe Panzani, qui est un saxophoniste qui a une carrière très, très variée, qui a été le saxophoniste de Hocus Pocus pendant toute la durée d'Hocus, et qui joue maintenant beaucoup avec...
Le groupe de hip-hop,
très connu, ouais. Qui joue maintenant avec le groupe d'Anne Passeo, qui est une batteuse très connue aussi, et qui a aussi ses propres projets, qui tourne aussi, voilà, c'est un mec...
Qui a des influences multiples,
qui a une quarantaine d'années, et qui est pour moi quelqu'un que j'admire aussi musicalement et humainement. Et donc ça marchait très bien en quartet, et je leur ai dit, ça vous dit de faire un truc en sextet. Donc j'ai écrit de la musique pour sextet.
Six instruments.
Six instruments, du coup, basse, contrebasse, contrebasse, piano, batterie, sax, trompette, guitare. Et du coup, on a fait cette résidence, ça a marché super bien. Là, encore une fois, ça s'invente pas, quoi. Un son à trois, ce qui joue souvent les thèmes ensemble.
Mais vous composez, vous, au départ, vous leur proposez une ligne, ou est-ce que ça se fait à plusieurs?
Alors là, non, j'ai tout écrit. J'ai tout écrit,
tout arrangé. Au départ.
Ensuite, ça, c'est le. Faut se dire que ce qui est écrit au départ, c'est mort. Enfin, non, c'est pas mort. C'est mort quelque part, parce que c'est couché sur du papier. Ensuite, c'est eux qui le font vivre. Et là, c'est pareil. Pour faire vivre un truc arrangé pour trois musiciens qui jouent soit ensemble, soit un peu pas vraiment ensemble, mais quand même ensemble, ça s'invente pas, quoi. Et là, ils ont commencé à jouer ensemble, et déjà au bout d'un jour de répète, ils avaient jamais joué ensemble, les trois ensemble, et c'était déjà un super son. Donc là, on s'est dit, à la fin des 10 jours, on s'est dit, là, il faut faire un truc, c'est pas possible. Il faut que ça marche tellement bien qu'on peut pas ne pas faire. Donc, le disque, on l'a enregistré en trio, plus eux. Et voilà, donc c'est pour ça que pour moi, ça reste un disque en trio. Mais ils sont un peu l'extension du trio, quoi. Parce qu'ils sont là, et parfois ils sont pas là, mais quand ils viennent, pour moi, ça ajoute justement une couleur plus que ça ne fait une différence, quoi. Après, tout le monde n'est pas forcément de cet avis, mais en tout cas, nous, on l'est, donc c'est le principal.
Comment ça marche, le studio ? C'est vous captez un moment ou est-ce que vous vous préparez en vue d'enregistrer ?
Bon, c'est vrai que c'est pas la même chose que le live, surtout dans la longueur des morceaux, parce qu'un morceau de jazz, en live, ça peut durer un quart d'heure, comme ça peut durer une demi-heure, ou ça peut durer trois minutes. Là, voilà, le disque, on s'est dit, il faut que ça fasse environ 50 minutes. On a, je crois qu'il y a 11 plages sur l'album. Donc voilà, on définit un petit peu les moments de solo. On dit, bah voilà, là, c'est peut-être pas forcément ouvert. T'as par exemple, si la grille, elle fait 32 mesures, on dit, tu vas faire par exemple deux fois 32 mesures. Et puis après, on passe à la suite. Donc là, c'est un peu difficile parce qu'il faut arriver à dire tout ce qu'on a à dire en deux fois 32 mesures, quoi. Parfois, on dit là, ça reste ouvert parce que finalement, le matériel écrit n'est pas si long, donc on peut se permettre. Il y a des plages comme l'introduction qu'on a entendue avant. Au début, c'est complètement improvisé. On parle de rien et on va vers le morceau d'après. Donc, ça reste quand même assez ouvert, mais on essaye de penser aux formes et aussi à l'auditeur. Parce que écouter un disque de jazz derrière son casque ou derrière sa chaîne Hi-Fi dans son canapé, ça n'a rien à voir qu'avec un concert. Un concert, on peut se permettre beaucoup plus de choses, à mon avis. Les gens sont en live, ils reçoivent l'énergie des musiciens. Écouter un disque comme ça, si on donnait tout et qu'on jouait à blinde tout le temps, comme si on était dans une salle de concert, les gens, au bout de deux morceaux, ils posent le casque et ils vont faire autre chose, quoi. Donc il faut penser à tout ça.
À l'attention,
à l'attention des gens, il faut penser aussi à l'oreille des gens, il faut penser à l'ordre des morceaux, il faut que les gens puissent se reposer, il faut que les gens puissent s'évader, il faut que les gens puissent soient un peu dérangés. Enfin, moi, c'est un peu mon but, quoi. D'aller les chercher un peu partout où ils se trouvent, en fait. Et puis, je pense que c'est ce que tout compositeur qui écrit des disques fait. Et c'est pas évident, c'est un délire, le studio, dans le jazz. Aussi d'accepter, voilà, dans les solos, de se dire, bon, bah là, ça c'est mon solo maintenant.
C'est un peu plus balisé, quoi.
Ouais, c'est un peu plus balisé. Et en même temps, là, peut-être dans 10 jours, j'en ai marre de ce truc, quoi. Mais justement, il faut faire le compromis, quoi.
Et parce qu'après, c'est gravé.
Après, c'est gravé, ouais. À tout jamais, quoi. Sauf si on les brûle tous, mais c'est pas l'idée, quand même.
Merci, Gauthier Toulx. De rien. Votre troisième album, dont on a entendu des extraits, dont on entend encore un extrait, s'appelle The Colors You See. Il est sorti au mois de mai sous le label Naïm Records. Et vous serez en tournée au Canada fin août et début septembre, le 13 octobre à Nancy et le 23 à Villeurbanne.
Exactement.
Merci à Oriane Delacroix, Anaïs Isbert, Lila Bozès, Anne Toscane Viudès et Anna-Livia Marchaison qui pensent et préparent cette émission avec moi. Lise Combe était à la réalisation et aujourd'hui au son, c'était Florent Bujon. Pour écouter la Grande Table d'été, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pourrez vous abonner au podcast. Ce soir à 18h15 dans Du Grain à Moudre, Antoine Janton et ses invités répondront à cette question. Dieu se cache-t-il dans les marchés ?